Le journal Babel Pongo.
Début ce matin à Kinshasa du procès qui oppose le gouverneur André Kimbuta au propriétaire des maisons détruites sur les sites de Tembela Tembe. La partie civile souhaite qu'aucune activité de vente ou de construction ne soit entreprise sur ce terrain avant la fin du procès. Double viol le week-end dernier à Mweka au Kasaï occidental. Un policier a violé deux fillettes d'une même famille. Ce policier actuellement aux arrêts était concubin de la mère des fillettes. Affaire trafic d'armes entre des casques bleus et des FDLR au Nord Kivu. Human Rights Watch trouve superficielle l'enquête menée sur ce dossier. La MONUC, elle, estime que les investigations ont été menées de façon rigoureuse. Madame, Monsieur, bonsoir. Première audience aujourd'hui du procès qui oppose le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, au propriétaire des maisons détruites sur les sites Tembena Tembe, c'est ici à Kinshasa. L'audience s'est déroulée au tribunal des grandes instances de la Gombe. Innocent Olenga nous parle de l'essentiel de l'audience de ce jour.
L'audience de ces jours statuait sur les mesures conservatoires sur le terrain querellé, mesures sollicitées par les avocats de la partie civile. L'un de ces avocats, Maître Nsilou Matondo, explique leur démarche.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse autre chose à cet endroit-là en attendant que l'affaire soit vidée. Parce que lorsqu'on détruit, parfois on apprend qu'on veut vendre à une tierce personne, parfois on apprend qu'on veut faire d'autres constructions. Pendant ce temps, aucune activité ne peut être menée, aucune vente, rien ne peut être fait au niveau de ce terrain-là.
Ces avocats de la partie civile ont demandé au juge les rejets de tous les moyens exceptionnels soulevés par les avocats de la défense. Ces derniers sollicitaient l'annulation de l'action menée contre M. Kimbuta pour mauvaise orientation de la requête, signalant que les personnes dont leurs maisons ont été démolies sur les sites Tembena Tembe ont introduit une assignation en dommages-intérêts contre l'hôtel de ville et le gouverneur André Kimbuta en premier lieu et la République démocratique du Congo en second lieu. Après les interventions des uns et des autres, le tribunal a pris l'affaire en délibéré. C'est après que le ministère public lui ait demandé de tenir compte des mesures conservatoires sollicitées par la partie civile. Le tribunal a donc 15 jours pour se prononcer.
Et puis, suite du procès Serge Maéchi à Bukavu, l'audience avait brièvement repris ce matin avant la descente sur terrain pour reconstituer les faits. Michel Chirimwami, qui suit ce procès depuis le début, retrace ici la démarche du tribunal.
L'audience de ce mercredi a été consacrée à la descente sur terrain pour reconstituer les faits. Tout a commencé par le bar chez Kizos, désigné comme lieu de conspiration par les présumés assassins. Ensuite, le tribunal ainsi que les autres parties se sont rendus dans un dépotoir où Freddy Dissimoa et Masaki Laruezangabo disent qu'ils avaient caché l'arme qu'ils ont utilisée pour assassiner Serge Maéchi. Jusqu'au lieu du crime, en passant par le bar La Croisière, les deux présumés assassins sont restés constants dans leurs déclarations. Ils ont été conduits un après l'autre aux différents lieux supposés avoir servi de repères à la date du 13 juin 2007. À chaque endroit, ils ont fourni les mêmes détails jusqu'au plus moindre. Par exemple, la tenue vestimentaire de Alain Moulindi ce jour-là, celui que les deux présumés assassins ne cessent de citer comme commanditaire. La plaidoirie pourra intervenir ce jeudi sauf changement de dernière minute, a-t-on appris du président du tribunal militaire de garnison de Bukavu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et à propos de changement de dernière minute, justement, le tribunal vient de renvoyer la prochaine séance de ce procès au Serge Maéchi à vendredi au matin. Le ministère public prévoit de prononcer son réquisitoire donc vendredi. Quatre personnes tuées et une dizaine d'autres blessées du côté des FRDC dans le dernier combat à Minembwe au sud Kivu. C'est le dernier bilan relevé par la MONUC ce mercredi. Du côté des rebelles, la MONUC ne dispose encore d'aucun bilan. Son porte-parole militaire affirme que la situation est actuellement redevenue calme. S'agissant de la situation humanitaire, la MONUC dispose d'une base mobile opérationnelle à Minembwe pour voler au secours des sinistrés. Lieutenant-colonel Debrosse, porte-parole militaire de la MONUC, le dit au micro de Jeff Ngoy.
Depuis le 21 juillet, la ville de Mont-Renvia a été reprise par les FARDC. Cette ville était auparavant occupée par les dissidents, avec à leur tête le colonel Bissogo et surtout le major Rukumba. Ces dissidents ont fui la ville et ils se sont enfuis dans la direction de la forêt de Rugamba.
Quelles actions compte mener la MONUC pour le rétablissement de la paix dans cette partie de l'Est de la RDC et surtout les dispositions humanitaires prises?
Bien, la MONUC dispose choses à une certaine distance, malheureusement, donc à Minembwe, d'une base mobile opérationnelle, à partir de laquelle peuvent être faites des patrouilles, sachant qu'une base mobile opérationnelle peut envoyer des gens pour une durée de 24 heures, c'est-à-dire une mission qui dure pendant environ 6-7 heures aller, plus 6-7 heures retour, ça fait à peu près la journée pour escorter des convois humanitaires. Il y a des protocoles qui sont mis en place pour que ce genre d'action soit réalisé.
Deux fillettes de 7 et 9 ans d'une même famille violées coup sur coup par un policier de 35 ans. Les faits ont eu lieu le week-end dernier dans la cité de Mweka au Kasaï occidental. La mère de ces enfants accuse son concubin, un policier de 35 ans. Elle affirme que le concubin policier voulait se venger d'une rupture amoureuse imminente. Elle relate les circonstances de ce double viol au téléphone de André Kambala.
Cette histoire m'est arrivée le samedi. Je m'étais rendu dans la forêt pour travailler. J'avais laissé mes deux fillettes à la maison. J'ai un mari policier, mais depuis le vendredi, j'avais commencé à les chasser de chez moi. Il s'est fâché pour cela, alors il a profité de mon absence la nuit de samedi à dimanche pour transformer mes enfants en ses femmes. Mes filles ont chacune 9 ans et 7 ans. Elles m'ont raconté l'événement et j'ai vu les taches du sang sur leurs sous-vêtements. Je suis allé saisir la justice et on l'a arrêté. Nous sommes allés avec les enfants à l'hôpital, on a effectué les examens et l'hôpital a confirmé que les enfants sont violés. Mais je n'ai pas encore de l'argent pour les faire soigner comme demandé à l'hôpital.
Les deux fillettes se trouvent actuellement à l'hôpital local. L'accusé, lui, est au cachot de la police. Contactez le général José Bakemo, inspecteur provincial de la police nationale congolaise, d'y avoir donné des instructions pour que ce policier soit jugé publiquement à Mweka, afin que cela serve d'exemple aux autres policiers. Un homme a été abattu cette nuit à Lopa. Ce village est situé à 28 km au nord de Bunia, dans la province orientale. L'auteur de cet assassinat, un militaire de la 4e brigade intégrée, est au courant corps. Le tribunal militaire de garnison de l'Ituri s'est déplacé sur place pour un jugement public en flagrance. Récit des faits avec Jean-Paul Basila.
Selon des sources policières locales, c'est aux environs des 10h du matin que la victime et sa femme ont vu la porte de leur maison forcée par un homme armé en uniforme. De l'extérieur, les visiteurs ont tiré sur la victime. Celle-ci, atteinte au cou et à la mâchoire, elle est morte sur les champs. La femme de la victime indique que l'assassin est finalement rentré dans la maison, a pris son temps, se servit à manger et a emporté ses $50 américains. Ce matin, après une opération de contrôle physique de militaires basés sur place, l'état-major local de la 4e brigade intégrée reconnaît l'auteur de ces crimes comme faisant partie de ses rangs. L'assassin court encore, aucune boutique n'a ouvert ses portes ce mercredi à Lopa, et même des creuseurs artisanaux d'or ne sont pas allés dans leur chantier. Le tribunal militaire garnison de l'Ituri a tant suivi en foraine ce mercredi même à Lopa sur cette affaire. Le commandant de la zone opérationnelle des FARDC en Ituri, le général André Kinkela, promet de couvrir tous les frais des funérailles. Bounia, Jean-Paul Basila, Radio Okapi.
Human Rights Watch, pas du tout satisfaite des résultats de l'enquête sur le trafic d'armes entre des Castres Bleus et des FDLR au Nord Kivu. Dans une lettre adressée au chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Marie Guéhenon, cette ONG des défenses des droits de l'homme estime que l'enquête menée par l'organisation OIOS était superficielle. Rappelons qu'une enquête indépendante a été ouverte après des allégations sur l'implication des Castres Bleus pakistanais dans les trafics d'armes contre de l'or avec des combattants rwandais FDLR. Tchipoukou revient ici sur les plaintes de Human Rights Watch.
Human Rights Watch est déçu des conclusions superficielles du rapport d'enquête. C'est en ces termes que cette ONG de défense des droits de l'homme exprime son insatisfaction. Dans sa lettre au chef des opérations de maintien de paix des Nations Unies, l'ONG reste critique sur l'enquête menée par l'organisation internationale OIOS. Elle déplore, je cite, le manque de transparence, la lenteur et le manque continu de responsabilité dans la réalisation de l'enquête, fin de citation. Et à l'ONG d'ajouter, nous sommes surtout inquiets du nombre limité des soldats impliqués dans ce trafic. Nous restons convaincus que plusieurs soldats ont été impliqués. Ce n'est pas tout. Human Rights Watch se dit aussi consterné par les déclarations de Jean-Marie Guéhenon sur la radio britannique BBC. Selon elle, M. Guéhenon a rejeté toute implication des casques bleus dans cette affaire, alors que le rapport de l'OIOS a cité au moins un officier pakistanais dans ce trafic. Tout en reconnaissant le rôle positif de la MONUC en RDC, Human Rights Watch exige des sanctions contre des casques bleus qui auront commis des infractions, ainsi que des enquêtes transparentes et rapides sur des éventuelles infractions commises par ces soldats de la paix.
Interrogé, le porte-parole de la MONUC affirme qu'il reste convaincu que l'enquête a été menée de façon rigoureuse. Pour lui, il faut se contenter de ce rapport. Kemal Saïki, porte-parole de la mission onusienne au Congo, au micro de Adia Tipoukou.
L'enquête qui a été menée pendant plusieurs mois. Ça a été un travail qui a été fait de manière très rigoureuse. Il est évident qu'il y aura toujours des voies ou des institutions pour s'estimer pas satisfaite par les résultats de cette enquête, à moins qu'elle ne soit en mesure d'avancer de manière très certaine et prouver qu'elles ont des raisons sérieuses de douter de la crédibilité de cette enquête. Je crois qu'il faudra pour le moment nous contenter de ce qui a été établi, je le dis encore, de manière très rigoureuse.
Publication de la liste des candidats mandataires des entreprises publiques qui ont réussi au test écrit. Selon le chargé de communication du COPIREP, Albert Lieke, aucun recours n'a été introduit. Le test oral commence demain jeudi et ira jusqu'au lundi au 30 juillet. Albert Lieke indique que les trois premiers jours seront consacrés aux candidats directeurs généraux. Sauf imprévu, le test se tiendra au Grand Hôtel Kinshasa. À la suite du concours, une liste restreinte des candidats susceptibles d'exercer la fonction sollicitée sera transmise au gouvernement. Au Nord Kivu, la population de Rumangabo, riverain du parc, s'oppose à l'enterrement de quatre corps de gorilles arrivés hier soir à Rumangabo. Ces quatre gorilles ont été tués par balle dimanche dernier au parc national de Virunga, dans le groupement des Gisigari, territoire de Rutshuru. Le conservateur assistant de la station de Rumangabo affirme que deux autres gorilles de la même famille sont portés et disparus. Les auteurs du massacre ne sont pas encore identifiés. Explication Sifa Maguru.
La population de Rumangabo exige des éclaircissements sur ces massacres. Il y a trois jours, quatre gorilles de la famille Rugendo, nom du chef de famille, lui-même tué. C'était près du poste de patrouille des Bikenge Bukima, dans le secteur de Rumangabo, en territoire de Rutshuru. Selon un responsable administratif sur place à Rumangabo, c'est la première fois depuis des années qu'un aussi grand nombre de gorilles sont massacrés dans ce secteur. Les enquêtes sont en cours pour identifier les braconniers, mais ce responsable administratif évoque un conflit latent entre la population riveraine du parc et les responsables de l'ICCN.
Comment la population peut-elle participer vraiment à la protection des gorilles alors que ces mêmes gorilles détruisent leurs plantes et que les forces touristiques qui viennent de ces gorilles enrichissent les autres au détriment de la population? Nous demandons à ce que le fonds et même les aides qui viennent de Bayeux qu'ils nous aident à développer chez nous.
Depuis le début de l'année, ce sont sept gorilles abattus dans le secteur Mikenou. L'ADG de l'ICCN, Cosma Wilungula, condamne ces massacres et promet un renforcement de mesures de protection dans les parcs des Virunga. Goma, Sifamaguru, Radio Kapi.
Au Nord Katanga, création lundi d'un comité de coordination de rattrapage scolaire à Kalemie. Ce lancement intervient après un atelier qui a réuni 16 associations actives dans le domaine informel de l'éducation. Ce programme est initié par le ministère des Affaires sociales et celui de l'EPSP du gouvernement central et bénéficie d'un appui de l'UNICEF. Mais qui sont concernés par cette opération? C'est ce qu'on nous dit François-Xavier Mibé.
Le programme cible des centaines de jeunes garçons et jeunes filles, pour la plupart, victimes des dernières guerres. Beaucoup n'ont plus l'âge scolaire. Ils sont encadrés dans des structures non formelles. Ils apprennent à lire et à écrire. D'autres encore sont formés aux petits métiers, et cela sans objectif scolaire. Des activités montées sans support pédagogique, un constat que fait le chef des services des affaires sociales, le terme Moukalaï.
Ce qu'on faisait, on croyait faire un centre de rattrapage, mais comme nous venons d'apprendre quelque chose de neuf, je crois bien qu'on va s'adapter pour faire allusion alors au centre de rattrapage.
Le programme lancé permet la remise à niveau des centres d'encadrement des enfants en situation difficile. Il organise trois niveaux des matières prévues dans l'enseignement du primaire. Au bout de la formation, les bénéficiaires doivent affronter les examens de fin des cycles du primaire ensemble avec d'autres enfants du système scolaire normal. À ce sujet, les ministères des Affaires sociales et de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du gouvernement central prévoient du matériel pédagogique et la formation des éducateurs avant le démarrage effectif des activités de rattrapage scolaire au Nord Katanga. François-Xavier Mibé, Radio Kapi, Kalemie.
Voici le rappel des titres avant de nous quitter. Début ce matin à Kinshasa du procès qui oppose le gouverneur André Kimbuta aux propriétaires des maisons détruites sur les sites Tembela Tembe. La partie civile souhaite qu'aucune activité de vente ou de construction ne soit entreprise sur ce terrain avant la fin du procès. Et puis, double viol le week-end dernier à Mweka au Kasaï occidental. Un policier a violé deux fillettes d'une même famille. Ce policier, qui est actuellement aux arrêts, était concubin de la mère de ces deux fillettes. Nous avons parlé aussi de l'affaire trafic d'armes entre les casques bleus et des FDLR au Nord Kivu. Human Rights Watch trouve superficielle l'enquête menée sur ce dossier. La MONUC, elle, estime que les investigations ont été menées de façon rigoureuse. C'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.